ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mercredi 3 février 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau. Je suis très heureuse de vous rejoindre pour une nouvelle émission de Ça vaut le détour, votre boîte à outils pour contourner les obstacles du handicap. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis dès midi. Je vous invite à nous joindre sur Twitter avec le mot-clic CVLD pour Ça vaut le détour ou @canal_M. Vous pouvez évidemment nous soumettre des sujets ou commenter sur l'actualité. On est toujours très ouvert à recevoir vos suggestions. Alors, au programme aujourd'hui, on reçoit des personnes de différents horizons. Vous êtes peut-être au courant que pour le 40e anniversaire de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en 2015, l'organisme a choisi de rendre hommage à 40 personnes qui, au quotidien, défendent ou font la promotion des droits inclus dans la charte. Alors, on reçoit aujourd'hui en studio Lorraine Doucet, qui est l'une de ces 40 personnes hommagées. On vous la fait découvrir un peu plus tard dans l'émission. C'est aussi notre chronique mensuelle du CAMO pour personnes handicapé où Frank Bouchard, conseiller, vient nous parler des stages en milieu de travail pour les personnes handicapées. On s'entretient aussi avec Rémi Mailloux, directeur général de la ressource pour personnes handicapées en Abitibi-Témiscamingue, qui nous fera découvrir les services offerts par l'organisme. Et on va aussi parler du côté de la Mauricie. On va découvrir La Fenêtre, un centre d'immersion aux arts pour les personnes vivant avec une limitation fonctionnelle. Restez avec nous. Comme je le disais en début d'émission, tout au long de l'année, la Commission des droits a rendu hommage à 40 lauréats et lauréates en leur consacrant notamment une page web spéciale pour permettre au grand public de mieux comprendre leur parcours et l'importance de leur contribution à la société québécoise. Aujourd'hui, parmi nous, on vous présente l'une des lauréates, Lorraine Doucet, qui est spécialiste en intégration scolaire et sociale. Elle est aussi responsable du service accès scolaire du regroupement pour la trisomie 21. Bonjour, Madame Doucet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est très heureuse de recevoir une médaillée, vous me disiez, hors micro.
Tout à fait. C'est vraiment, on a les preuves que nous avons été médaillés à un moment dans notre vie.
Et en plus, ce nouveau prix hommage que vous avez reçu dans la dernière année, ce n'était pas le premier remis par la Commission des droits de la personne. Et aussi, en 2003, vous avez reçu le prix Droits et libertés. Donc, vous avez même fait l'objet en 2004 de la personnalité de la semaine de la presse. Donc, les honneurs, vous êtes habitués.
Bien, écoutez, est-ce qu'on peut s'habituer à ça? Je pense que non. À chaque fois, c'est toujours comme une surprise parce qu'on a l'impression de faire notre travail comme citoyenne au quotidien et on a l'impression que tout le monde fait le même travail. Mais c'est quand on est honoré qu'on réalise que, ah, c'est peut-être pas dû à tout le monde de comprendre la situation de chacun puis d'apporter un apport à la société comme ça.
Lorraine Doucet, vous êtes experte en inclusion sociale d'enfants en situation de handicap. Quel est le parcours? Comment on devient experte?
Écoutez, on le devient pas. Je crois qu'on le vit au quotidien. C'est notre façon de pouvoir bâtir notre crédibilité dans le réseau. C'est officiel que j'ai eu des formations, mais avant d'avoir des formations, j'ai été entourée de gens qui étaient en situation de handicap pour lesquels je n'ai jamais compris pourquoi ils étaient soit discriminés, soit exclus, soit mis à part à cause de leur situation. Pour moi, c'est tout le monde devrait être avec tout le monde parce que tout le monde, on a quelque chose à créer, à apporter comme évolution de la société. Donc, quand j'ai réalisé ça, je suis allée me chercher des formations universitaires et suite à cela, j'ai travaillé au niveau de la stimulation précoce chez les tout-petits de 2 ans et demi à 5 ans. Et pour moi, c'était comme des amours, des petits cocos, des petites cocottes, qu'on doit juste ouvrir la porte pour leur permettre d'intégrer. Et à l'époque, la porte était difficilement ouverte pour les garderies, ils s'appelaient comme ça à l'époque et non pas les CPE. Mm-hmm. Pour moi, c'est comme si ça n'avait pas de bon sens. Ils étaient des enfants, ils avaient les conditions pour pouvoir rentrer dans cet endroit-là. Donc, ça allait de soi que nous les intégrions. Puis, par la suite, ça a été au niveau scolaire, où vraiment je suis de l'époque où on était avec trois catégories d'étudiants. Les étudiants éducables, semi-éducables et non-éducables. Et là, je faisais, mais comment ça? Qui peut ne pas être éducable sur la planète? Ça n'a pas de bon sens pour moi. Donc, immédiatement, je me suis mise à m'intéresser, puis à m'intéresser surtout au côté légal. De dire, mm-hmm. est-ce qu'on a le droit de discriminer des gens parce que leurs caractéristiques personnelles sont différentes des nôtres? Ben non, il n'y a personne qui est pareil dans cette communauté-là. Donc, on va de l'avant.
Et justement, l'aspect scolarité, en fait, d'intégration scolaire revient vraiment au cœur de vos préoccupations, au cœur de vos batailles aussi. Pourquoi ce secteur-là en particulier, le système de l'éducation?
Très, très simple. C'est le seul système où tout le monde est obligé d'aller s'asseoir pour devenir quelqu'un dans la société. C'est l'Éducation Québec a toujours été reconnue, puis j'espère que ça sera toujours dans le futur, comme étant une priorité de notre peuple québécois de dire tous les enfants ont le droit d'accéder à la scolarité. Donc, à partir de là, comment se fait-il que dans cet accès-là, on en discrimine. Pour moi, ça avait comme pas de sens, puisque c'est obligatoire. Mm-hmm. Puis quand on regarde sincèrement la loi, c'est clair. Entre 6 ans et 16 ans, je suis assis sur les bancs d'école, point à la ligne. Maintenant, je veux pas juste user mon fond de culotte. Je veux apprendre quelque chose de qualité.
Notamment aussi parce que le milieu scolaire est un bon milieu de socialisation pour les jeunes. Et quelles sont les conditions à mettre en place pour permettre une bonne intégration à l'école?
D'accord. Le milieu scolaire étant un milieu d'instruire, socialiser, qualifier. Okay? Pour moi, ça va pour tous les jeunes du Québec. À partir de là, les conditions, plusieurs recherches ont été faites. La première obstacle à une éducation de qualité, ce sont les préjugés. Les préjugés qui sont sur la base de dire, « Ah, handicap apparent, tu ne dois pas être capable de... Mm-hmm. » Et je commence à faire une liste de préjugés qui met des obstacles à pouvoir partager quelque chose ensemble au lieu d'être sur le mode, puis ça a toujours été un mode naturel de dire, bon, cette personne-là, exemple, a une limitation visuelle, qu'est-ce que je peux mettre en place pour la faire réussir dans cet environnement-là? Ce que je trouve difficile, c'est ce sont ces obstacles-là qui peuvent aujourd'hui être dépassés, être éliminés, être contournés. Bien, on maintient cette espèce de pensée-là, cette espèce de reproduction-là que ces personnes-là ne peuvent pas vivre dans les mêmes circuits que nous. Puis j'ai toujours dit, mais pourquoi pas?
Et on les voit, on perçoit souvent les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, particulièrement selon un principe de limitation plutôt que de potentiel.
Tout
C'est
à fait.
Encore quelque chose qui est à ajuster. Pardon, est-ce que actuellement on a un système scolaire qui réussit à bien intégrer les jeunes avec des déficiences intellectuelles? Je sais par exemple que vous travaillez beaucoup du côté des jeunes avec la trisomie 21. Est-ce qu'on peut dresser un petit portrait? Comment ça se passe actuellement?
J'ai comme deux réponses à vous donner. Voulez-vous celle qui est politiquement correcte ou celle qui est vraiment la réalité actuelle?
Moi, je veux votre point de vue. On
Mon
veut
point
votre
de
point
vue.
de vue.
Actuellement, puis je vous dirais depuis à peu près les années 2010, okay? Les personnes qui sont en situation de handicap visible, qui paraît, c'est écrit dans mon visage, une trisomie 21, ou je peux la voir dans son déplacement, ou etc., ces personnes-là, ce qu'on réalise, c'est qu'il y en a de moins en moins intégrés à la classe ordinaire. Puis on ne comprend pas pourquoi. Ils sont visibles. À ce moment-là, ça serait beaucoup plus facile de mettre des facilitateurs dans l'environnement pour leur permettre de réussir comme tous les autres élèves.
Tout à fait, c'est plus facile de cibler quels sont les obstacles et de pouvoir les résoudre.
Bien, ce qu'on voit présentement, c'est qu'il est plus facile de les exclure parce que leur handicap est visible. Et là, on nous dit, bien, il faut s'occuper des gens qui ont des handicaps invisibles. Je m'excuse, les solutions que l'on trouvera pour les personnes qui ont un handicap visible serviront aux personnes qui ont un handicap invisible. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'on se retrouve tous dans le même chaudron des personnes handicapées pour dire, bien, j'aurais peut-être pu mettre quelque chose en place pour pouvoir soutenir cette intégration-là.
Donc, il manque encore cet aspect, en fait, d'inclusion, vraiment, pour l'ensemble des élèves.
Oui.
Et aussi parce qu'on l'oublie parfois, mais une situation de handicap peut survenir à tout moment aussi. Donc, ça semble un peu absurde d'inclure d'abord un étudiant et de peut-être devoir l'exclure parce que sa situation va changer. Vous êtes aussi très sensible à la façon dont les médias traitent des personnes handicapées, particulièrement de la trisomie 21, de la déficience intellectuelle. J'aimerais que vous nous parliez de qu'est-ce qui vient vous chercher ou quel est votre regard critique sur les médias?
Encore là, mon regard critique est j'ai la possibilité d'être un média, d'avoir un micro, d'avoir une caméra pour mettre en valeur une personne. Quand on l'utilise pour augmenter les préjugés envers certaines clientèles ou envers certains individus, je m'excuse, mais c'est une injustice pour moi totale et complète. On n'a pas à avoir accès à un micro à ce moment-là ou à une image visuelle pour pouvoir réduire le potentiel de ces gens-là. Pour moi, c'est toujours dans ce sens-là. Et puis, vous l'avez dit tantôt, je ne regarde pas les limites de la personne, je regarde ce qu'elle peut m'apporter de plus. Et ce qu'on réalise, c'est que tout individu peut apporter quelque chose de plus. Puis, ce n'est pas vrai qu'on ait une société où tout le monde sera parfait, parce que ce sera une société plate. Ce qui fait la beauté de la société, c'est de voir que chacun, on contribue à notre façon, avec notre potentiel, à arriver à bâtir quelque chose qui sera meilleur pour demain.
Et en terminant, j'aimerais vous entendre, selon vous, qu'est-ce qui nous manque pour avoir une meilleure intégration scolaire en rappelant aussi qu'une bonne intégration scolaire pour un jeune, ça a un impact à la fois sur l'enfant, mais sur les parents et sur la société en général, comme vous rappelez beaucoup cette idée justement de société, de vivre ensemble, de communauté. Qu'est-ce qui nous manque? Quel est l'ingrédient magique de Mme Doucet qu'on devrait ajouter au programme?
Qu'on devrait ajouter au programme, c'est déjà à la base la formation. La formation qui est les personnes qui prendront soin d'individus qui seront en relation d'aide, que je sois un enseignant, un éducateur, un professionnel, ces personnes-là devraient avoir déjà en pensée et dans leur regard. Quand je regarde un étudiant, il est ici parce qu'il a l'âge, parce que c'est l'endroit où on a décidé comme société qu'il serait. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir l'amener à sa réussite et non pas avoir toujours la pensée de dire « il serait bien meilleur ailleurs ». Okay? Fait que pour moi, c'est déjà la première chose. Seconde des choses, je ne vous le cache pas, ça prendra des sous, ça prendra des gens compétents qui vont miser sur la qualité de service du vivre ensemble ici et non pas du vivre ensemble ailleurs.
Et ça va prendre encore des gens comme vous, Lorraine Doucet, qui êtes dédiée, qui avez fait de l'intégration scolaire, en fait, pour les jeunes avec des déficiences intellectuelles, vraiment le centre de votre vie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle qu'elle est spécialiste en intégration scolaire, mais surtout lauréate d'un prix hommage de la Commission des droits de la personne. Et on peut trouver sa page web sur 40ansdelacharte.org. On revient tout de suite après la musique.
Merci.
À quoi tu penses lorsque tu danses? Là dans tous les sens, qu'est-ce qui les pousse, qui les balance? Là sur la cadence, qu'est-ce qui lance, qui les élance, toujours dans le même sens, à quoi tu penses?
Que j'ai en tête, Sherlock, tiré de son album Réveille le roi, paru en 2015. Intégration, réadaptation, maintien dans le milieu de vie et stimulation précoce. Ce sont tous des services offerts pour les personnes en situation de handicap dans la région d'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec. J'ai au bout du fil M. Rémi Mailloux, directeur général de La Ressource pour personnes handicapées. Bonjour, M. Mailloux.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, parlez-moi un peu de l'histoire et de la mission de La Ressource. Comment c'est né?
C'est né il y a 19 ans. Nous, on voulait faire en sorte de créer un organisme qui aide vraiment les personnes handicapées concrètement. C'est-à-dire qu'on voulait... On est issu de l'ancienne association de paralysie cérébrale, puis on voulait que les sous demeurent dans notre région en totalité. et faire en sorte d'aider tous les gens handicapés. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait 388 membres. Dix années plus tard, on est à 1941 membres qu'on aide quotidiennement, jour après jour et concrètement.
Et 1941 membres, quand même, ça a plus que... Bon, c'est un gros chiffre, je ne suis pas capable finalement de faire le calcul. Donc, vous disiez que vous desservez vraiment tous les types de handicaps.
Exactement, parce qu'on sait que dans des régions moins volumineuses, il y a moins d'associations pour les handicaps comme tel. C'est-à-dire fallait créer un organisme qui regroupe tous les gens d'handicap parce que j'ai appris avec le temps, c'est que peu importe l'handicap, c'est que tu as besoin du répit, tu as besoin du gardiennage, tu as besoin d'équipement spécialisé, tu as besoin de camps de vacances, puis tu as besoin de toutes sortes d'affaires pour que ta vie soit à peu près normal.
Oui, justement, donc on le mentionnait, c'est vraiment dans un but d'acquérir le plus d'autonomie possible. Les services de la ressource sont variés, c'est lié à l'équipement, à l'adaptation de domicile, au transport aussi. Même, il y a un service d'interprétariat en langage gestuel ou oraliste. Ça va vraiment partout. Vous êtes une ressource palliative aux services gouvernementaux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Ça veut dire qu'il existe des programmes au niveau du gouvernement qui répondent aux besoins des personnes handicapées. Malheureusement, ces programmes-là couvrent en partie et vraiment pas en totalité tous les besoins des personnes handicapées. Fait que c'est sûr que nous autres, on ne dédouble jamais ce que le gouvernement peut offrir. On est toujours en support, soit d'un manque de budget momentané, ou soit les programmes ne répondent pas à tout. Ça fait qu'on est un peu des colmateurs de brèches. Le programme gouvernemental.
Un colmateur de brèches, j'aime ça comme expression. Je lisais aussi que vous avez même un service de camp d'été.
C'est-à-dire que nous, c'est pas nous qui offrons le camp d'été. Nous, on supporte les gens à aller dans un camp d'été. On a un en Abitibi de Miscamingue, le lac Flavrien, le camp d'été du lac Flavrien, d'où on supporte là, les personnes handicapées à aller passer une semaine ou deux parfois quand
le besoin est là.
Quand le besoin est requis. C'est vraiment de l'aide financière pour que les personnes handicapées et leurs familles répondent à leurs besoins. Un petit peu, des fois, un souffle dans leur quotidien.
Donc, vous créez des partenariats aussi. Quelles sont les sources de financement de la ressource?
Bien, notamment, nous, on vient de sortir dimanche passé d'un téléthon régional. Qui nous sert à colmater les brèches, c'est-à-dire que nous, en fin de semaine, on a ramassé 471 000 pour ce que je vous disais, répondre à des besoins qui sont pas répondus par les programmes gouvernementaux. Donc, avec ça, on fait un petit bout de chemin, là, chemin, je pourrais vous dire un grand bout de chemin dans l'intégration de personnes handicapées.
Mm-hmm. 471 000 $, félicitations. C'est important comme montant. Et en terminant, on parlait de vous desservez l'Abitibi et le nord du Québec. Où vous êtes situé exactement et comment on fait pour vous contacter, avoir, si on veut, connaître vos services, peut-être profiter de votre expertise? C'est quoi la procédure?
Nous, on a un site web qui est au www.laressource.org. Ça fait que c'est sûr qu'avec ça, vous avez un paquet d'informations accessibles aussi à différents handicaps. On vient de lancer là, une couple de semaines. Et puis, ceux-là qui sont en Abitibi de Témiscamingue, ben, et au nord du Québec, qui font affaire avec, bien souvent, vu qu'on travaille pas tout seul et qu'on a juste un bureau régional, on travaille vraiment beaucoup quotidiennement avec les centres. Et là, c'est rendu un centre intégré de services sociaux,
mm-hmm.
qui est les anciens CLSC, les centres de réadaptation physique et intellectuelle. Et on n'oublie jamais nos partenaires du communautaire qui, de temps en temps, font appel ou réfèrent les personnes handicapées directement à nous.
Donc, c'est vraiment, encore une fois, dans une optique d'inclusion et d'autonomie le plus possible pour les personnes en situation d'handicap.
Tout à fait.
Donc, merci beaucoup, M. Rémi Mailloux. Vous êtes directeur général de la ressource pour personnes handicapées en Abitibi-Témiscamingue et qui dessert aussi le nord du Québec. Félicitations pour votre initiative et on va continuer de suivre vos dossiers.
Merci beaucoup.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleaux.
Je vous rappelle le mot-clé sur les réseaux sociaux, CVLD, aussi @ canal barre de soulignement M sur Twitter. On continue dans notre émission, cette fois-ci, avec la première chronique mensuelle du CAMO pour personnes handicapées. Le Comité d'adaptation de la main-d'œuvre pour personnes handicapées est un organisme national dont la mission est de favoriser l'accès à la formation et à l'emploi des personnes handicapées. Collaborateurs à Ça vaut le détour, ils vont venir présenter une chronique par mois. Et cette fois-ci, pour la première chronique, on a Franck Bouchard en studio, qui est conseiller au CAMO. Bonjour, Franck.
Bonjour.
Donc, aujourd'hui, en fait, on va parler plus spécifiquement, on va s'attarder sur la question du stage. Donc, le stage en milieu professionnel pour les personnes handicapées qui sont actuellement en formation.
Effectivement, j'aborde peut-être pour cette première chronique-là un sujet qui peut-être n'est pas D'emblée, on dirait que c'est peut-être pas tout à fait relié à l'emploi, mais je pense qu'il y a une importance majeure quand même pour l'accès à l'emploi, la réussite d'un stage. Premièrement, ben, ça permet d'une part la réussite de ce stage-là d'avoir le diplôme. C'est quand même très important, évidemment, pour intégrer un emploi à le diplôme. Si la personne n'a pas réussi pas son stage, échoue son stage, n'a pas le diplôme, ça peut compromettre, évidemment, une intégration future en emploi. Le stage, évidemment, permet aussi une acquisition d'une expérience de travail. Donc, c'est une première possibilité d'expérience de travail pour les personnes. Donc, d'aller tout de suite mettre en valeur auprès d'un employeur ses capacités. Donc, c'est sûr que c'est important de réussir ce stage-là. C'est aussi, évidemment, souvent l'occasion que le stage peut se transformer en emploi. Donc, la transition vers le travail peut se réaliser grâce à ce stage-là. Donc, si le stage se déroule bien, ben à la clé, il y a une offre d'emploi qui peut être là offerte par l'employeur. Donc, c'est important, comme par rapport à l'emploi, évidemment, que ça déroule bien, qu'on permette à la personne de réussir ce stage-là. Donc, d'où l'importance pour nous au CAMO, quand même, de toute cette dimension-là pour les personnes en situation de handicap, de réussir, d'accéder, de réussir à ces stages-là.
Et ben justement, en plus, on est au début février. C'est souvent la période où est-ce que les étudiants vont regarder les offres de stage, vont soumettre des dossiers à des employeurs ou dans des milieux de travail. Quelles sont les choses à savoir, en fait, quand on veut postuler pour un stage si on est une personne en situation de handicap?
Évidemment, il y a toute la question de se questionner d'abord, à savoir est-ce que mes incapacités peuvent être un facteur qui peut compromettre d'aller chercher un stage. Donc, il y a des besoins d'accommodement sur lesquels il faut se questionner. Comme étudiant, est-ce que je suis au fait de la réalité du milieu de travail en termes d'accessibilité, en termes d'horaire, en termes d'exigence, donc qui peut être en contradiction peut-être avec mes capacités. Donc, évidemment, qu'une personne qui se déplace en fauteuil doit quand même valider, évidemment, la possibilité au niveau de l'accessibilité de l'immeuble où se déroulera son stage. Donc, c'est quand même des éléments importants par rapport à ça. Aussi, se questionner au préalable, de se préparer au préalable aussi par rapport aux attentes de l'employeur par rapport à la réussite d'un stage. Donc, évidemment, en termes d'horaire, de disponible sur les lieux de travail, d'être en mesure aussi de pouvoir collaborer avec les autres collègues de travail. Donc, c'est des éléments aussi, lorsque des personnes peuvent avoir des difficultés à cet égard-là, de respect des horaires, etc. Donc, c'est sûr d'être bien au fait aussi que c'est des éléments aussi importants qui vont être mesurés dans le cadre de stage. Donc, non seulement d'être capable de faire le travail, mais aussi d'être capable aussi d'œuvrer dans le milieu de travail. Donc, c'est sûr que c'est important aussi de se préparer par rapport à ça, d'être bien au fait de ces éléments-là.
Et justement, au CAMO, vous êtes en mesure d'identifier parfois justement les obstacles à la réussite d'un stage, mais tout simplement même à l'opportunité de réaliser un stage. Et qu'est-ce que vous amenez à ce moment-là? Une fois qu'il y a une problématique qui est identifiée, qu'est-ce qu'on fait?
Bien, écoutez, pour le travail que nous, on mène au CAMO, évidemment, n'est pas directement sur le terrain. Donc, c'est plutôt des fois de l'aide qu'on va apporter à peut-être des établissements d'enseignement qui peuvent avoir des difficultés à trouver un stage. Qu'est-ce qui serait en termes d'accommodement? Qu'est-ce qui serait possible? Est-ce qu'il y a des lieux de stage plus propices que d'autres par rapport à vos connaissances sur les employeurs, etc.? Donc, à des fois, on sera amené à travailler auprès comme ça de responsables de stage ou d'enseignants pour les aider à trouver un lieu qui serait plus propice pour l'élève ou l'étudiant qu'ils accompagnent. Donc, c'est plus de cet ordre-là que des fois on peut intervenir, nous, au CAMO. En tout cas, on intervient aussi c'est arrivé encore récemment, notamment avec l'ETS, où on a travaillé avec l'ETS, les services adaptés et les responsables des stages à comment mieux comprendre les situations d'accommodement, les obligations légales qui en découlent, les attentes des employeurs, comment tout ça peut se tricoter pour réussir les stages. Donc, il y avait une problématique à l'ETS de difficultés, pas pour tous les élèves en situation de handicap, mais pour un certain nombre qui quand même posaient des problèmes ou posaient en tout cas des questionnements. Et on a travaillé avec les gens de l'ETS comme ça pour permettre de monter, par exemple, une formation, une demi-journée de formation avec les responsables de stage. À l'ETS, c'est très important, c'est une dimension majeure pour la réussite des études. Les gens font des stages de façon régulière. Ça fait partie intégrante
du programme d'enseignement.
Donc, c'est un défi majeur que tous les étudiants se trouvent des stages. Parce que c'est pas seulement un stage, même si durant tout leur parcours scolaire, ils vont faire plusieurs stages. Donc, c'est quand même un élément important. Donc, notre rôle d'intervention va peut-être se situer davantage dans ce contexte-là.
Et quelle est la réception des milieux de stage ou des employeurs potentiels? On peut appeler ça comme ça. En fait, ce sont des milieux de travail qui accueillent des étudiants en stage. Quelle est leur perception ou quelle est leur réception une fois qu'ils comprennent, justement, vous parliez des obligations légales par rapport aux accommodements. Qu'est-ce qui est la responsabilité du milieu de stage? Est-ce que c'est bien compris?
Je dirais que oui, c'est bien compris. Quoi qu'il y a toujours des réticences, évidemment. Les employeurs peuvent avoir des craintes, légitimes ou non, par rapport aux besoins d'encadrement qui sera fourni auprès de l'étudiant, par rapport à leur capacité de fournir les accommodements, par rapport au degré d'intervention qui sera requis, s'il y a des problématiques, est-ce qu'il y a des gens qui vont pouvoir venir l'aider, des gens de l'établissement, etc. Donc, c'est sûr que de ce point de vue-là, il faut un peu démystifier les auprès des employeurs pour mettre un petit peu à plat ces réticences-là, les éliminer. Et lorsque c'est fait, lorsque c'est bien préparé, lorsqu'on prépare finalement bien l'employeur, mais aussi l'étudiant qui va aller en stage, ces réticences-là vont tomber parce qu'ils vont voir rapidement qu'il y a des possibilités d'accommodement qui peuvent être mises en place, qu'il y a des services adaptés qui peuvent les soutenir. S'il y a une situation qui se présente, ils peuvent donc référer à quelqu'un pour les aider. Ils vont aussi mieux comprendre aussi l'étudiant, sa situation. Évidemment, il y a toujours aussi, dans ce contexte-là, l'importance pour l'étudiant lui-même de dévoiler ou non sa situation d'handicap. Donc, dans ce contexte-là, il y a aussi un enjeu de dévoilement de la situation d'handicap, surtout dans les cas où l'handicap n'est pas nécessairement visible. Si la personne a un trouble de santé mentale, un trouble de spectre de l'autisme, un trouble d'apprentissage, c'est pas visible nécessairement qu'il y a une problématique. Donc, est-ce que l'élève va être à l'aise pour en parler, pour manifester, pour qu'il y a un besoin d'accommodement possible? C'est toujours un enjeu. C'est un droit de ne pas le dire. L'employeur ne peut pas demander s'il y a un besoin d'accommodement. Il n'y a pas le droit de le demander. Disons, de la pratique courante, on recommande aux étudiants de mettre de l'avant ses besoins d'accommodement, mais c'est toujours du cas par cas, évidemment, tout dépendant de la capacité de l'élève à être autonome et de bien gérer ses besoins de lui-même, ou alors s'il y a vraiment des besoins qui doivent être identifiés et mis en place chez l'employeur. Donc, c'est toujours aussi ça un enjeu qui est important.
C'est délicat.
C'est toujours délicat, effectivement.
C'est du cas par cas. Quelles sont les ressources qui sont mises à disposition des employeurs ou des milieux de stage?
Bien, d'abord, les ressources, évidemment, de l'établissement elle-même, de l'établissement d'enseignement. Il y a des services adaptés, des conseillers qui peuvent être là pour soutenir l'employeur, l'étudiant. Le personnel aussi dans les établissements qui s'occupent des stages, des responsables de stage, souvent ils vont travailler de concert. Les services adaptés, les responsables de stage, les enseignants vont travailler de concert pour soutenir l'employeur au besoin. Donc, ça, c'est une ressource. Il y a aussi d'autres éléments, peut-être plus, promotionnel, si on pourrait dire, dans le sens où l'employeur, évidemment, quelle sorte d'incitatif il a aussi à embaucher, pas embaucher, mais d'offrir un stage à un étudiant en situation de handicap. Le gouvernement du Québec offre depuis plusieurs années des crédits d'impôt pour tous les stagiaires, premièrement, peu importe qu'il soit en situation de handicap ou non, il y a un crédit d'impôt qui est offert aux employeurs plus les employeurs du milieu privé, parce que, bon, évidemment, il faut payer de l'impôt.
Mais c'est parfois un incitatif.
C'est un incitatif. Et du côté, lorsque l'étudiant qui est accueilli en stage est en situation d'handicap, ces crédits d'impôt-là sont bonifiés. Donc, ça peut être intéressant pour ouvrir davantage la porte aux étudiants en situation d'handicap par rapport à ça, parce que l'employeur, bon, si ses inquiétudes sont sur le fait qu'il a besoin de donner plus d'encadrement, bien, ces coûts supplémentaires-là peuvent être compensés par un crédit d'impôt plus important, des dépenses plus importantes reconnues dans ce contexte-là.
Est-ce qu'il y a un niveau scolaire où se trouver un stage, si on est en situation d'handicap, est plus difficile? On évoque, entre autres, l'exemple de l'ETS, c'est un niveau universitaire. Est-ce qu'au niveau secondaire, par exemple, parce qu'il y en a des formations justement, soit formation spécialisée ou différents métiers plus manuels, même au collégial, le nombre de techniques qu'on retrouve au cégep, est-ce que ce sont des milieux qui sont différents ou plus difficiles?
Je dirais que peut-être du côté de la formation professionnelle, ça peut être un enjeu plus important, dans le sens où on ne retrouve pas dans les centres de formation professionnelle des services adaptés comme il y a au cégep, comme il y a aux universités. Donc, la préparation des étudiants, le support qu'on peut donner à un éventuel employeur est peut-être moins grand, en tout cas moins aisé de le fournir. Les ressources sont moins présentes dans les centres de formation professionnelle. Donc, il y a peut-être un enjeu plus important, un défi plus important. Effectivement, en plus, on parle d'employeurs souvent, donc des métiers plus manuels, plus techniques, des fois les adaptations, comment elles peuvent être mises en place, les accommodements. Des fois, c'est peut-être plus compliqué si on parle d'appareillage, etc. Donc, ça, mm-hmm. c'est à voir. Donc, il peut y avoir un enjeu. Je ne dis pas que c'est problématique pour l'ensemble des étudiants, des élèves, mais ça peut être effectivement un enjeu plus important, étant donné la capacité peut-être moindre des centres de formation de fournir de l'aide à la fois à l'étudiant et à l'employeur qui va accueillir le stagiaire.
Et j'aimerais qu'on aborde quand même le risque d'échouer le stage ou les conséquences que ça peut avoir chez les étudiants?
Bien, c'est sûr que l'échec du stage peut entraîner d'abord peut-être une remise en question du choix de formation par l'étudiant. Si la personne est incapable de réussir son stage, il y a un risque de ne pas être diplômé, comme je le disais au début. Est-ce que ça signifie à ce moment-là que l'étudiant devrait faire un nouveau choix de carrière, étant donné qu'il est dans l'impossibilité de compléter sa formation? Donc, il est sûr qu'il y a des conséquences importantes. De plus en plus, les milieux essaient d'introduire des stages plus tôt dans le processus, et non pas à la fin, mm-hmm. pour éviter évidemment à la personne, après un an, deux ans, trois ans d'études, de oups, il échoue son stage et toutes ces années-là sont d'une certaine manière perdues. On essaie
notamment dans le milieu de l'enseignement, c'est une réforme qu'il y a eu pour permettre de tester dans une vraie classe.
Dans une vraie classe, effectivement. Donc, question, effectivement, que la personne sache rapidement. On propose même, dès le départ, si on voit même durant le début de la formation qu'il peut y avoir des problématiques, on suggère à l'étudiant, est-ce que tu pourrais pas aller faire un stage d'un jour pour voir, effectivement, valider des choses, peut-être voir si jusqu'à quel point c'est réaliste, le choix que tu as fait. Donc, ça fait partie des stratégies pour essayer d'éviter ces conséquences-là qu'à la fin d'un parcours scolaire, ça mène à un échec parce que le stage n'est pas possible, parce que le stage est échoué, et dans ce contexte-là, il n'y a pas de diplomation possible. Donc, il y a un grand souci de la part des milieux étudiants pour éviter ce type de conséquences-là. Évidemment, l'étudiant lui-même est libre de choisir ou non, de poursuivre ou non. Il y a comme une obligation de fournir l'accommodement dans les milieux d'enseignement. L'étudiant, s'il souhaite continuer, malgré toutes les précautions qu'on aura pu lui dire par rapport à son choix de carrière, peut-être que ça ne fonctionne pas. S'il décide, bien écoutez, ce sera à lui d'assumer ce choix-là.
Oui, oui, parce qu'évidemment, l'étudiant reste tout de même maître de sa décision. En ce qui concerne, et je ne sais pas si vous êtes en mesure de me répondre, les gens qui ont les étudiants qui ont des besoins plus particuliers au niveau de la santé, par exemple, qui vont avoir des traitements de physiothérapie à l'extérieur ou qui doivent peut-être, ils ne peuvent pas passer une longue période de temps assis ou debout, dépendamment de ce qu'on doit faire. Et donc, ça peut avoir un impact, même léger, sur l'horaire qu'on doit avoir. Est-ce qu'il y a des ressources pour justement pallier à ces manques-là au niveau du temps qui est accordé au milieu de travail ou alors ou est-ce qu'il y a des ressources qui peuvent venir rassurer finalement l'employeur, sachant que ça serait quelque chose, ce serait une situation qu'il va vivre dans son milieu professionnel sur le long terme?
On
rentre dans autre chose, mais c'est des problématiques avec lesquelles on peut arriver, finalement, en disant « moi, j'ai pas de problème à l'intégration, je nécessite pas d'équipement particulier, c'est très accessible. Par contre, c'est au niveau de mon corps ou de la santé, je dois inclure un certain nombre d'heures de repos dans ma semaine, par exemple. » Et parfois, il y a certains stages qui sont très exigeant ou sur des longues périodes de temps, 15 semaines parfois. Qu'est-ce que vous faites lorsqu'on arrive avec une problématique comme ça?
Une problématique semblable, je pense que ça doit être examiné avec l'employeur jusqu'à quel point il est possible de mettre en place ce type d'accommodement-là, d'une certaine manière. Jusqu'à quel point l'aménagement d'un horaire différent peut être possible. jusqu'à quel point il peut être possible de donner effectivement des congés périodiques à la personne parce qu'elle a besoin d'aller faire un traitement ou quoi que ce soit.
Mm-hmm.
Ça prend des employeurs ouverts. Ça prend des milieux de travail qui puissent offrir une certaine flexibilité. C'est pas le cas de tous, là, on s'entend là-dessus. Même si, effectivement, ça peut être un enjeu majeur pour bien des personnes. De plus en plus, nous, en tout cas au CAMO, lorsqu'on parle aux employeurs, on leur fait aussi réfléchir à ces questions-là. L'accommodement, c'est pas seulement d'offrir un outil ou une porte plus qui s'ouvre toute seule ou quoi que ce soit. Ça peut aussi faire partie d'éléments reliés aux horaires de travail, aux méthodes de travail, à l'organisation du travail lui-même, les tâches à donner, est-ce qu'on peut les répartir différemment.
Mm-hmm.
Donc, ça fait aussi partie des éléments un peu de conciliation que les employeurs, de plus en plus, en tout cas, ont à prendre en considération s'ils sont sérieux dans leur volonté d'embaucher des personnes en situation de handicap et pas seulement celles pour lesquelles bon, on va mettre un accommodement. Une fois, c'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus, la personne, ça va bien, ça, c'est tant mieux, mais il y a des cas beaucoup plus comme ça, beaucoup plus complexes, qu'il faut que l'employeur soit prêt à penser à ces éléments-là. Parce que nous, on a fait la promotion CAMO lorsqu'on parle avec les employeurs. On les indique que la situation d'handicap sont très variables et que les accommodements aussi doivent l'être et de repenser pas seulement aux aménagements physiques, mais à l'ensemble de l'organisation du travail.
Donc, il y a un travail en amont qui est fait de votre part au CAMO. Merci beaucoup, Franck Bouchard. Vous êtes conseiller au CAMO, le comité d'adaptation de la main-d'œuvre pour personnes handicapées. Merci pour cette première chronique. On se revoit bientôt.
Ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir.
Il veut te piquer, t'appeler ton seau. Ta couche culotte avec les bons becs dedans. Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Attends un peu avant de te faire emmerder. Ces petits machos qui pensent qu'à une chose, jouer au docteur non conventionné. J'y ai joué aussi, je sais de quoi je cause. Je les connais bien, les playboys des bacs à sable. Je draguais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils te feront porter leur cartable. Heureusement que je suis là, que je te regarde et que je t'aime. Lola, je suis qu'un fantôme. Quand tu vas où je suis pas, tu sais, maman, que je suis Morgane. Faire tatouer des machins qui me font comme une bande dessinée sur la peau. J'ai écrit ton nom avec des clous dorés, un par un planté dans le cuir de mon blouson, dans le dos. T'es la seule gonzesse que je peux tenir dans mes bras, sans démettre une épaule, sans plier sous ton poids. Tu pèses moins lourd qu'un moineau qui mange pas. Déploie jamais tes ailes, Lolita, t'envole pas. Avec tes miches de rat qu'on dirait des noisettes, et ta peau plus sucrée qu'un pain au chocolat, tu risques de donner faim à un tas de petits mecs quand t'iras à l'école, si jamais t'y vas.
tu vas où je suis pas. Tu sais, maman, que je suis Morgane de toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux un petit frangin? Tu veux que je t'achète un ami Pierrot? Hey, les bébés ça se trouve pas dans les magasins. Et je crois pas que ta mère voudra que je lui fasse un petit dans le dos. Ben quoi d'aubard, on n'est pas bien ensemble. Tu crois pas qu'on est déjà bien assez nombreux? T'entends pas ce bruit, c'est le monde qui tremble sous les cris des enfants qui sont malheureux. Allez, viens avec moi, je t'embarque dans ma galère. Dans mon arche, y a de la place pour tous les marmots. Avant que ce monde devienne un grand cimetière, faut profiter un peu du vent qu'on a dans le dos. Lola, je suis qu'un fantôme. Quand tu vas où je suis pas, tu sais, maman, que je suis Morgane de toi.
Le pire.
longue pause musicale aujourd'hui. On a entendu Morgane de Toi de Renaud et tout juste qui vient de terminer Karim Ouellet, Karim et le Loup. Pas de chance, on n'a pas réussi à rejoindre notre organisme de Trois-Rivières, La Fenêtre, le centre d'immersion aux arts pour les personnes vivant avec une limitation fonctionnelle. On va s'assurer de pouvoir les recevoir à nouveau dans l'émission ces prochaines semaines. Je remercie mes invités qui étaient avec moi aujourd'hui, Frank Bouchard du CAMO, Rémi Mailloux de la Ressource pour personnes handicapées en Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec et Lorraine Doucet, spécialiste en intégration scolaire et lauréate de...
C'est absolument...